Voltaire, dialogue philosophique, les sages. Je méditais cette nuit. J'étais absorbé dans la contemplation de la nature. J'admirais l'immensité, le cours, les rapports de ces globes infinis que le vulgaire ne sait pas admirer. J'admirais encore plus l'intelligence qui préside à ces vastes ressorts. Je me disais, il faut être aveugle pour n'être pas ébloui de ce spectacle. Il faut être stupide pour n'en pas reconnaître l'auteur. Il faut être fou pour ne pas l'adorer. Mais quel tribut d'adoration dois-je lui rendre? Ce tribut ne doit-il pas être le même dans toute l'étendue de l'espace, puisque c'est le même pouvoir suprême qui règne également dans cette étendue? Un être pensant qui habite dans une étoile de la Voie lactée, ne lui doit-il pas le même hommage que l'être pensant sur ce petit globe où nous sommes? La lumière est uniforme pour l'astre de Sirius et pour nous. La morale doit être uniforme. Si un animal sentant et pensant dans Sirius est né d'un père et d'une mère tendres qui aient été occupés de son bonheur, il leur doit autant d'amour et de soins que nous en devons ici à nos parents. Si quelqu'un dans la Voie lactée voit un indigent estropié, s'il peut le soulager, s'il ne le fait pas, il est coupable envers tous les globes. Le cœur a partout les mêmes devoirs. Sur les marges du trône de Dieu, s'il a un trône, et au fond de l'abîme, s'il est un abîme. J'étais plongé dans ces idées quand un de ces génies qui remplissent les intermondes descendit vers moi. Je reconnus cette même créature aérienne qui m'avait apparu autrefois pour m'apprendre combien les jugements de Dieu diffèrent des nôtres et combien une bonne action est préférable à la controverse. Il me transporta dans un désert tout couvert d'ossements entassés, et entre ces monceaux de morts, il y avait des allées d'arbres toujours verts, et au bout de chaque allée un grand homme d'un aspect auguste qui regardait avec compassion ces tristes restes. « Hélas, mon archange, lui dis-je, où m'avez-vous mené ?»« À la désolation, me répondit-il. Et qui sont ces beaux patriarches que je vois immobiles et attendris au bout de ces allées vertes et qui semblent pleurer sur cette foule innombrable de morts ?»« Tu le sauras, pauvre créature humaine, me répliqua le génie des intermondes. Mais auparavant, il faut que tu pleures. » Il commença par le premier amas. Ceux-ci, dit-il, sont les 23 000 juifs qui dansèrent devant un veau, avec les 24 000 qui furent tués sur des filles madianites. Le nombre des massacrés pour des délits ou des méprises pareilles se monte à peu près de 300 000. Aux allées suivantes sont les charniers des chrétiens égorgés les uns par les autres pour des disputes métaphysiques. Ils sont divisés en plusieurs monceaux de 4 siècles chacun. Un seul remonté jusqu'au ciel. Il a fallu les partager. « Quoi ? » m'écriai-je. « Des frères ont traité ainsi leurs frères ? Et j'ai le malheur d'être dans cette confrérie ?»« Voici, dit l'esprit, les 12 millions d'Américains tués dans leur patrie parce qu'ils n'avaient pas été baptisés. » Mais mon Dieu, que ne laissiez-vous ces ossements affreux se dessécher dans l'hémisphère, où leurs corps naquirent et où ils furent livrés à tant de trépas différents? Pourquoi réunir ici tous ces monuments abominables de la barbarie et du fanatisme? Mais pour t'instruire. Ah, puisque tu veux m'instruire, dis-je au génie, apprends-moi s'il y a eu d'autres peuples que les chrétiens et les juifs, à qui le zèle et la religion, malheureusement tournés en fanatisme, aient inspiré tant de cruautés horribles. « Oh oui, me dit-il, les Mahométans se sont souillés des mêmes inhumanités, mais rarement. Et lorsqu'on leur a demandé « Amman, miséricorde » et qu'on leur a offert le tribut, ils ont pardonné. Pour les autres nations, il n'y en a aucune depuis l'existence du monde qui ait jamais fait une guerre purement de religion. Suis-moi maintenant. » Je le suivis. Un peu au-delà de ces piles de morts, nous trouvâmes d'autres piles. C'étaient des sacs d'or, d'argent, et chacune avait son étiquette. substance des hérétiques massacrés au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, au XVIe, et ainsi en remontant. Or et argent des Américains égorgés, etc. Et toutes ces piles étaient surmontées de croix, de mitres, de crosses, de tiares enrichies de pierreries. Quoi, mon génie, ce fut donc pour avoir ces richesses qu'on accumula ces morts? Mais oui, mon fils. Alors je versai des larmes, et quand j'eus mérité par ma douleur qu'il me mena au bout des allées vertes, il m'y conduisit. « Contemple, me dit-il, les héros de l'humanité qui ont été les bienfaiteurs de la terre et qui se sont tous réunis à bannir du monde autant qu'ils l'ont pu la violence et la rapine. Interroge-les. » Je courus au premier de la bande. Il avait une couronne sur la tête et un petit encensoir à la main. Je lui demandai humblement son nom. « Je suis Numa Pompilius, me dit-il. Je succédais à un brigand et j'avais des brigands à gouverner. Je leur enseignais la vertu et le culte de Dieu. Ils oublièrent après moi plus d'une fois l'un et l'autre. Je défendis qu'il y eût dans les temples aucun simulacre parce que la divinité qui anime la nature ne peut être représentée. Les Romains n'eurent sous mon règne ni guerre ni sédition, et ma religion ne fit que du bien. Tous les peuples voisins vinrent honorer mes funérailles, ce qui n'est arrivé qu'à moi. Je lui baisai la main et j'allai au second. C'était un beau vieillard d'environ 100 ans, vêtu d'une robe blanche. Il mettait le doigt médium sur sa bouche et de l'autre main il jetait des fèves derrière lui. Je reconnus Pythagore. Il m'assura qu'il n'avait jamais eu de cuisse d'or et qu'il n'avait point été coq, mais qu'il avait gouverné les Crotorthiates avec autant de justice que Numa gouvernait les Romains, à peu près de son temps, et que cette justice était la chose du monde la plus nécessaire et la plus rare. J'appris que les pythagoriciens faisaient leur examen de conscience 2 fois par jour. Les honnêtes gens, et que nous sommes loin d'eux. Mais nous, qui n'avons été pendant 1300 ans que des assassins, nous disons que ces sages étaient des orgueilleux. Je ne dis mot à Pythagore pour lui plaire, et je passai à Zoroastre, qui s'occupait à concentrer le feu céleste dans le foyer d'un miroir concave, au milieu d'un vestibule à 100 portes qui toutes conduisent à la sagesse. Sur la principale de ces portes, je lus ces paroles qui sont le précis de toute la morale et qui abrègent toutes les disputes de casuistes. Dans le doute, si une action est bonne ou mauvaise, abstiens-toi. Certainement, dis-je à mon génie, les barbares qui ont immolé toutes les victimes dont j'ai vu les ossements n'avaient pas lu ces belles paroles. Nous vîmes ensuite les Aleucus, les Taïeux, les Anaximandres et tous les sages qui avaient cherché la vérité et pratiqué la vertu. Quand nous fûmes à Socrate, je le reconnus bien vite à son nez épaté. « Eh bien, lui dis-je, vous voilà donc au nombre des confidents du Très-Haut ? Tous les habitants de l'Europe, excepté les Turcs et les Tartares de Crimée qui ne savent rien, prononcent votre nom avec respect. On le révère, on l'aime, ce grand nom, au point qu'on a voulu savoir ceux de vos persécuteurs. On connaît Mellitus et Anitus à cause de vous, comme on connaît Ravaillac à cause de Henri IV. Mais je ne connais que ce nom d'Anitus, je ne sais pas précisément quel était ce scélérat par qui vous fûtes calomnié et qui vint à bout de vous faire condamner à la ciguë. « Je n'ai jamais pensé à cet homme depuis mon aventure, » me répondit Socrate. « Mais puisque vous m'en faites souvenir, je le plains beaucoup. C'était un méchant prêtre qui faisait secrètement un commerce de cuir, un négoce réputé honteux parmi nous. Il envoya ses 2 enfants dans mon école. Les autres disciples lui reprochèrent leur père, le corroyeur. Ils furent obligés de sortir. Le père irrité n'eut point de cesse qu'il n'eût ameuté contre moi tous les prêtres et tous les sophistes. On persuada au conseil des 500 que j'étais un impie qui ne croyait pas que la lune, Mercure et Mars furent des dieux. En effet, je pensais, comme à présent, qu'il n'y a qu'un Dieu, maître de toute la nature. Les juges me livrèrent à l'empoisonneur de la République. Il accourcit ma vie de quelques jours. Je mourus tranquillement, à l'âge de 70 ans. Et depuis ce temps-là, je passe une vie heureuse avec tous ces grands hommes que vous voyez, dont je suis le moindre. Après avoir joui quelque temps de l'entretien de Socrate, je m'avançai avec mon guide dans un bosquet situé au-dessus des bocages, où tous ces sages de l'Antiquité semblaient goûter un doux repos. Je vis un homme d'une figure douce et simple, qui me parut âgé d'environ 35 ans. Il jetait de loin des regards de compassion sur ces amas d'ossements blanchis, à travers lesquels on m'avait fait passer pour arriver à la demeure des sages. Je fus étonné de lui trouver les pieds enflés et sanglants, les mains de même, le flanc percé et les côtes écorchées de coups de fouet. « Eh, mon Dieu !» lui dis-je, « est-il possible qu'un juste, un sage, soit dans cet état ?» Je viens d'en voir un qui a été traité d'une manière bien odieuse, mais il n'y a pas de comparaison entre son supplice et le vôtre. De mauvais prêtres et de mauvais juges l'ont empoisonné. Est-ce aussi par des prêtres et par des juges que vous avez été assassiné si cruellement? Il me répondit « oui », avec beaucoup d'affabilité. Et qui étaient donc ces monstres? Oh, c'étaient des hypocrites. Ah, c'est tout dire. Je comprends par ce seul mot qu'ils durent vous condamner au dernier supplice. Vous leur aviez donc prouvé, comme Socrate, que la lune n'était pas une déesse et que Mercure n'était pas un dieu. Non, il n'était pas question de ces planètes. Mes compatriotes ne savaient point du tout ce que c'est qu'une planète. Ils étaient tous de francs ignorants. Leur superstition était toute différente de celle des Grecs. Mais vous voulûtes donc leur enseigner une nouvelle religion? Oh, pas du tout. Je leur disais simplement, aimez Dieu de tout votre cœur et votre prochain comme vous-même, car c'est là tout l'homme. Jugez si ce précepte n'est pas aussi ancien que l'univers. Jugez si je leur apportais un culte nouveau. Je ne cessais de leur dire que j'étais venu non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. J'avais observé tous leurs rites, circoncis comme ils l'étaient tous, baptisés comme l'étaient les plus zélés d'entre eux. Je payais comme eux le corban. Je faisais comme eux la Pâque, mangeant debout un agneau cuit dans des laitues. Moi et mes amis, nous allions prier dans le temple. Mes amis même fréquentèrent ce temple après ma mort. En un mot, j'accomplis toutes les lois, sans en excepter une. Quoi? Ces misérables n'avaient pas même à vous reprocher de vous être écarté de leurs lois? Ben non, sans doute. Mais pourquoi donc vous ont-ils mis dans l'état où je vous vois? Que voulez-vous que je vous dise? Ils étaient fort orgueilleux et intéressés. Ils virent que je les connaissais. Ils surent que je les faisais connaître aux citoyens. Ils étaient les plus forts. Ils m'ôtèrent la vie. Et leurs semblables en feront toujours autant s'ils le peuvent, à quiconque leur aura trop rendu justice. Mais ne dites-vous, ne fîtes-vous rien qui pût leur servir de prétexte? Tout sert de prétexte aux méchants. Mais ne leur dites-vous pas une fois que vous étiez venu apporter le glaive et non la paix? C'est une erreur de copiste. Je leur dis que j'apportais la paix et non le glaive. Oh, je n'ai jamais rien écrit. On a pu changer ce que j'avais dit sans mauvaise intention. Mais vous n'avez donc contribué en rien par vos discours, mal rendus ou mal interprétés, à ces monceaux affreux d'ossements que j'ai vus sur ma route en venant vous consulter. Non, je n'ai vu qu'avec horreur ceux qui se sont rendus coupables de tous ces meurtres. Et ces monuments de puissance et de richesse, d'orgueil et d'avarice, ces trésors, ces ornements, ces signes de grandeur que j'ai vus accumuler sur la route en cherchant la sagesse, viennent-ils de vous? Cela est impossible. J'ai vécu, moi et les miens, dans la pauvreté et dans la bassesse. Ma grandeur n'était que dans la vertu. J'étais prêt de le supplier de vouloir bien me dire au juste qui il était. Mon guide m'avertit de n'en rien faire. Il me dit que je n'étais pas fait pour comprendre ces mystères sublimes. Je le conjurais seulement de m'apprendre en quoi consistait la vraie religion. Mais ne vous l'ai-je pas déjà dit? Aimez Dieu et votre prochain comme vous-même. Quoi? En aimant Dieu, on pourrait manger gras le vendredi? J'ai toujours mangé ce qu'on m'a donné, car j'étais trop pauvre pour donner à dîner à personne. Mais en aimant Dieu, en étant juste, ne pourrait-on pas être assez prudent pour ne point confier toutes les aventures de sa vie à un inconnu? C'est ainsi que j'en ai toujours usé. Ne pourrais-je, en faisant du bien, me dispenser d'aller en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle? Je n'ai jamais été dans ce pays-là. Faudrait-il me confiner dans une retraite avec des sots? Pour moi, j'ai toujours fait le petit voyage de ville en ville. Me faudrait-il prendre parti pour l'église grecque ou pour la latine? Je ne fis aucune différence entre le juif et le samaritain quand je fus au monde. Eh bien, s'il en est ainsi, je vous prends pour mon seul maître. Alors il me fit un signe de tête qui me remplit de consolation. La vision disparut et la bonne conscience me resta. Voltaire, Dialogue philosophique, Lucien, Érasme et Rabelais dans les Champs-Élysées. Lucien fit, il y a quelque temps, connaissance avec Érasme, malgré sa répugnance pour tout ce qui venait des frontières d'Allemagne. Il ne croyait pas qu'un Grec dût s'abaisser à parler à un Batave. Mais ce Batave, lui ayant paru un mort de bonne compagnie, ils eurent ensemble cet entretien. Lucien. Vous avez donc fait dans un pays barbare le même métier que je faisais dans le pays le plus poli de la terre. Vous êtes moqué de tout. Érasme. Hélas, je l'aurais bien voulu, c'eût été une grande consolation pour un pauvre théologien tel que j'étais. Mais je ne pouvais prendre les mêmes libertés que vous avez prises. Cela m'étonne. Les hommes aiment assez qu'on leur montre leurs sottises en général, pourvu qu'on ne désigne personne en particulier. Chacun applique alors à son voisin ses propres ridicules, et tous les hommes rient aux dépens les uns des autres. N'en est-il donc pas de même chez vos contemporains? Il y avait une énorme différence entre les gens ridicules de votre temps et ceux du mien. Vous n'aviez affaire qu'à des dieux qu'on jouait sur le théâtre, et à des philosophes qui avaient encore moins de crédit que les dieux. Mais moi, j'étais entouré de fanatiques et j'avais besoin d'une grande circonspection pour n'être pas brûlé par les uns ou assassiné par les autres. Comment pouviez-vous rire dans cette alternative? Oh, si je ne riais guère! Et je passais pour être beaucoup plus plaisant que je ne l'étais. On me crut fort gai et fort ingénieux parce qu'alors tout le monde était triste. On s'occupait profondément d'idées creuses qui rendaient les hommes intrabilaires. Celui qui pensait qu'un corps peut être en deux endroits à la fois était prêt d'égorger celui qui expliquait la même chose d'une manière différente. Il y avait bien pis. Un homme de mon état qui n'eût point pris de parti entre ces deux factions eût passé pour un monstre. Oh, voilà d'étranges hommes que les barbares avec qui vous viviez. De mon temps, les jettes et les massagettes étaient plus doux et plus raisonnables. Et quelle était donc votre profession dans l'horrible pays que vous habitiez? J'étais moine hollandais. Moine? Quelle est cette profession-là? Ah, c'est celle de n'en avoir aucune, de s'engager par un serment inviolable à être utile au genre humain, à être absurde et esclave, et à vivre aux dépens d'autrui. Voilà un bien vilain métier. Comment, avec tant d'esprit, avez-vous pu embrasser un état qui déshonore la nature humaine? Passe encore pour vivre aux dépens d'autrui, mais faire vœu de n'avoir pas le sens commun et de perdre sa liberté. C'est qu'étant fort jeune et n'ayant ni parents ni amis, je me laissais séduire par des gueux qui cherchaient à augmenter le nombre de leurs semblables. Quoi, il y avait beaucoup d'hommes de cette espèce? Ils étaient en Europe, environ 600 à 700 000. Juste ciel! Oh, le monde est donc devenu bien sot et bien barbare depuis que je l'ai quitté. Horace l'avait bien dit, que tout irait en empirant, prigeniem vitiosiorem. Oh, ce qui me console, c'est que tous les hommes dans le siècle où j'ai vécu étaient montés au dernier échelon de la folie. Il faudra bien qu'ils en descendent et qu'il y en ait quelques-uns parmi eux qui retrouvent enfin un peu de raison. C'est de quoi je doute fort. Dites-moi, je vous prie, quelles étaient les principales folies de votre temps? Tenez, en voici une liste que je porte toujours avec moi, lisez. Oh, le bien longue. Lucien lit et éclate de rire. Rabelais survient. Rabelais. Messieurs, quand on rit, je ne suis pas de trop. De quoi s'agit-il? Oh, l'extravagance. Ah, alors je suis votre homme. Lucien à Érasme. Mais quel est cet original? Oh, c'est un homme qui a été plus hardi que moi et plus plaisant, mais il n'était que prêtre et pouvait prendre plus de liberté que moi qui étais moine. As-tu fait comme Érasme, vœu de vivre aux dépens d'autrui? Doublement, car j'étais prêtre et médecin. Oh, j'étais né fort sage. Je devins aussi savant qu'Érasme et. Voyant que la sagesse et la science ne menaient communément qu'à l'hôpital ou au gibet, voyant même que ce demi-plaisant d'Érasme était quelquefois persécuté, je m'avisais d'être plus fou que tous mes compatriotes ensemble. Je composais un gros livre de contes à dormir debout, rempli d'ordures, dans lequel je tournais en ridicule toutes les superstitions, toutes les cérémonies, tout ce qu'on révérait dans mon pays, toutes les conditions. Depuis celle de roi et de grand pontife, jusqu'à celle de docteur en théologie, qui est la dernière de toutes. Je dédiai mon livre à un cardinal et je fis rire jusqu'à ceux qui me méprisaient. Qu'est-ce qu'un cardinal, Érasme? Oh, c'est un prêtre vêtu de rouge, à qui on donne 100 000 écus de rente pour ne rien faire du tout. Vous m'avouerez du moins que ces cardinaux-là étaient raisonnables. Il faut bien que tous nos concitoyens ne fussent pas si fous que vous le dites. Que M. Rabelais me permette de prendre la parole. Les cardinaux avaient une autre espèce de folie, c'était celle de dominer. Et comme il est plus aisé de subjuguer des sots que des gens d'esprit, ils voulurent assommer la raison qui commençait à lever la tête. M. Rabelais, que vous voyez, imita le premier Brutus, qui contrefit l'insensé pour échapper à la défiance et à la tyrannie des Tarquins. Non, tout ce que vous me dites me confirme dans l'opinion qu'il valait mieux vivre dans mon siècle que dans le vôtre. Ces cardinaux dont vous me parlez étaient donc les maîtres du monde entier puisqu'ils commandaient aux fous. Non, 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 il y avait un vieux fou au-dessus d'eux. Comment s'appelait-il? Un pape Gaud. Oh, la folie de cet homme consistait à se dire infaillible et à se croire le maître des rois. Et il avait tant dit, tant répété, tant fait crier par les moines, qu'à la fin presque toute l'Europe en fut persuadée. Oh, que vous l'emportez sur nous en démence! Les fables de Jupiter, de Neptune et de Pluton, dont je me suis tant moqué, étaient des choses respectables en comparaison des sottises dont votre monde a été infatué. Je ne saurais comprendre comment vous avez pu parvenir à tourner en ridicule avec sécurité des gens qui devaient craindre le ridicule encore plus qu'une conspiration. Car enfin, on ne se moque pas de ses maîtres impunément. J'ai été assez sage pour ne pas dire un seul mot des empereurs romains. Quoi, votre nation adorait un pape Gaud? Vous donniez à ce pape Gaud tous les ridicules imaginables et votre nation le souffrait? Oh, elle était donc bien patiente. Rabelais. Il faut que je vous apprenne ce que c'était que ma nation. Oh, c'était un composé d'ignorance, de de superstition, de bêtise, de cruauté et de plaisanterie. On commença par faire pendre et par faire cuire tous ceux qui parlaient sérieusement contre les papegaux et les cardinaux. Le pays des Welches, dont je suis natif, nagea dans le sang, mais dès que ces exécutions étant faites, la nation se mettait à danser, à chanter, à faire l'amour, à boire et à rire. Je pris mes compatriotes par leurs faibles. Je parlais de boire, je lis des ordures, et avec ce secret, tout me fut permis. Les gens d'esprit entendirent finesse et m'en surgré. Les gens grossiers ne virent que les ordures et les savourèrent, et tout le monde m'aima, loin de me persécuter. Oh, vous me donnez une grande envie de voir votre livre. N'en auriez-vous point un exemplaire dans votre poche? Et vous, Erasme, pourriez-vous aussi me prêter vos facéties? Ici, Erasme et Rabelais donnent leurs ouvrages à Lucien, qui en lit quelques morceaux. Et pendant qu'il lit, ces deux philosophes s'entretiennent. Rabelais à Erasme. J'ai lu vos écrits et vous n'avez pas lu les miens parce que je suis venu un peu après vous. Vous avez peut-être été trop réservé dans vos railleries et moi trop hardi dans les miennes, mais à présent, nous pensons tous deux de même. Pour moi, je ris quand je vois un docteur arriver dans ce pays-ci. Erasme. Et moi, je le plains. Je dis, oh, voilà un malheureux qui s'est fatigué toute sa vie à se tromper et qui ne gagne rien ici à sortir d'erreur. Comment donc ne laisse rien être détrompé? C'est peu de choses, quand on ne peut plus détromper les autres. Le grand plaisir est de montrer le chemin à ses amis qui s'égarent, et les morts ne demandent leur chemin à personne. Erasme et Rabelais raisonnèrent assez longtemps. Lucien revint après avoir lu le chapitre des torches-culs et quelques pages de l'éloge de la folie. Ensuite, ayant rencontré le docteur Swift, ils allèrent tous quatre souper ensemble. Voltaire, dialogue philosophique, Galimatia dramatique. Un jésuite prêchant aux Chinois. Je vous le dis, mes chers frères, notre Seigneur veut faire de tous les hommes des vases d'élection. Il ne tient qu'à vous d'être vases. Vous n'avez qu'à croire sur le champ tout ce que je vous annonce. Vous êtes les maîtres de votre esprit, de votre cœur, de vos pensées, de vos sentiments. Jésus-Christ est mort pour tous, comme on sait. La grâce est donnée à tous. Si vous n'avez pas la contrition, vous avez l'attrition. Et si l'attrition vous manque, vous avez vos propres forces et les miennes. Un janséniste arrivant. Oh, vous en avez menti, enfant d'escobard et de perdition. Vous prêchez ici l'erreur et le mensonge. Non, Jésus n'est mort que pour plusieurs. La grâce est donnée à peu. L'attrition est une sottise. Les forces des Chinois sont nulles. Et vos prières sont des blasphèmes. Car Augustin et Paul, le jésuite, taisez-vous, hérétique, sortez, ennemi de Saint-Pierre. Mes frères, n'écoutez point ce novateur qui cite Augustin et Paul, et venez tous que je vous baptise. Le janséniste. Regardez-vous en bien, mes frères, ne vous faites point baptiser par la main d'un moliniste, vous seriez damné à tous les diables. Je vous baptiserai, moi, dans un an ou plus tôt, quand je vous aurai appris ce que c'est que la grâce. Le Quaker. Oh, mes frères, ne soyez baptisés ni par la patte de ce renard, ni par la griffe de ce tigre. Croyez-moi, il vaut mieux être point baptisé du tout. C'est ainsi que nous en usons. Le baptême peut avoir son mérite, mais on peut très bien s'en passer. Tout ce qui est nécessaire, c'est d'être animé de l'esprit. Vous n'avez qu'à l'attendre, il viendra. Et vous en serez plus en un moment que ces charlatans n'en pourraient dire dans toute leur vie. L'Anglican. Ah, mes joies, quels monstres viennent ici vous dévorer. Mes chers brebis, ne savez-vous pas que l'église anglicane est la seule église pure? Nos chapelains qui sont venus boire du punch à canton, ne vous l'ont-ils pas dit? Le jésuite. Les Anglicans sont des déserteurs. Ils ont renoncé à notre pape, et le pape est infaillible. Le luthérien. Votre pape est un âne, comme l'a prononcé Luther. Mes chers Chinois, moquez-vous du pape et des Anglicans et des Molinistes et des Jansénistes et des Quakers. Et ne croyez que les luthériens, prononcez seulement ces mots, in, cum, sub, et buvez du meilleur. Le puritain. Nous déplorons, mes frères, l'aveuglement de tous ces gens-ci et le vôtre. Mais Dieu merci, l'Éternel a ordonné que je viendrais à Pékin, au jour manqué, confondre ces bavards. Que vous m'écouteriez et que nous ferions le souper ensemble le matin, car vous saurez que dans le 4e siècle de l'ère de Denis le Petit, le musulman. Eh, mort de Mahomet, voilà bien les discours! Si quelqu'un de ces chiens-là s'avise encore d'aboyer, je leur coupe à tous les deux les oreilles. Pour leur prépuce, n'en donnerai pas la peine. Ce sera vous, mes chers Chinois, que je circoncirai. Je vous donne 8 jours pour vous y préparer, et si quelqu'un de vous autres, après cela, s'avise de boire du vin, il aura affaire à moi. Le juif. Oh, mes enfants, si vous voulez être circoncis, donnez-moi la préférence. Je vous ferai boire du vin tant que vous voudrez. Mais si vous êtes assez impie pour manger du lièvre, qui, comme vous savez, rumine et n'a pas le pied fendu, je vous ferai passer au fil de l'épée quand je serai le plus fort. Ou si vous l'aimez mieux, je vous lapiderai, car... Les Chinois. Oh, par Confucius et les 5 Kings, tous ces gens-là ont-ils perdu l'esprit? Monsieur le geôlier des petites maisons de la Chine, allez renfermer tous ces pauvres fous, chacun dans leur loge.